Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, on est vendredi, fin de semaine, je ne l'ai pas vu passer. C'est fou comme je ne vois plus passer mes semaines. Et on est en train d'explorer des nouveaux chemins. On a réussi enfin à trouver un chemin que j'avais repéré sur internet. Bref, je viens de finir de crapahuter entre des gorges avec des voies de chemin de fer au fond, des zones d'abattage, des zones de chasse. Ça y est, on a un chemin. Donc je peux discuter un peu avec vous. Voilà, la balade continue vendredi matin. J'espère que vous, ça va. Et que vous en profitez pour sortir. Parce que je vous rappelle quand même que le contact avec la nature préserve le niveau de stress et la charge mentale et l'anxiété et l'angoisse et la dépression, etc. Donc, ça fait partie de la vie que d'être en contact avec la nature, donc je vous le recommande fortement. Voilà, je crois que j'ai fini ma petite minute vieux con. Donc, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est apparu avec le temps, et avec les multiples interventions que je fais autour de ChatGPT. Tellement de rédacteurs web me posent des questions, que ce soit pendant les entretiens que je fais pour les gens qui veulent s'inscrire à la nouvelle formation. Donc voilà, c'est des entretiens d'une demi-heure qui portent un peu sur les inquiétudes, le projet, etc. Donc il y a vraiment des moments où je réargumente là-dessus. Des gens qui me demandent pourquoi la formation communicant, celle qui s'appelle Rédacteur Pro et qui va se lancer le 5 juin, pourquoi cette formation est meilleure que les autres ? L'argument, pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre ? Et surtout, que faire face à ChatGPT ? Et donc, je voulais revenir un peu sur cette question parce que j'ai développé un argumentaire à force de travailler cette logique de la question. Et cet argumentaire me semble robuste et intéressant. Et je veux vous le donner parce que c'est une clé qui vous servira dans votre métier de rédacteur web. Bien au-delà de ce podcast et bien au-delà des formations que vous pourriez acheter ou du cercle dans lequel vous pourriez rentrer ou des cours que vous pouvez avoir sur le sujet. C'est pas tant la question de ChatGPT en fait, mais là en l'occurrence, c'est lui le sujet. Donc, on a des clients aujourd'hui qui viennent nous dire « Bah écoutez, j'ai pas besoin de vous en ce moment, j'ai découvert ChatGPT, j'ai pris la formule à 20€ par mois, je génère mes articles directement dessus, je suis assez satisfait du résultat. Donc voilà, j'ai plus vraiment besoin de rédacteur web. » Bon. Et ça, c'est un argument qu'on entend beaucoup. Les fiches produits, les fiches catégories, les cocons sémantiques, etc. Les clients commencent à utiliser ChatGPT en se reposant sur son expertise pour pouvoir faire des contenus. Bon. Le truc, c'est qu'on a aussi des clients de l'autre côté qui viennent nous dire « En fait, ChatGPT, ça ne me va pas parce que ça produit des textes vraiment banals. » Et ils ont raison. Les textes que ChatGPT produit sont profondément banals. Banal ou banaux ? Je vous laisse y réfléchir. Et on peut se poser la question de est-ce que ChatGPT est un bon outil ? Est-ce que ChatGPT est vraiment un bon rédacteur web ? Le truc, c'est qu'il y a des gens, ils génèrent des textes avec ChatGPT qui sont excellents, mais vraiment, qui sont supérieurs à beaucoup d'autres. Et moi, c'est eux qui m'intéressent. Et pour comprendre l'argument que j'ai par rapport à ça, on va faire un petit tour du côté de Doctor Strange. J'imagine que vous êtes des amateurs de Marvel, ou au moins que vous ne les ignorez pas, que vous savez ce que c'est. Et dedans, il y a un personnage joué par le fabuleux, l'extraordinaire, le fantastique et le trop mal exploité au cinéma, Benedict Cumberbatch. Je crois que son meilleur rôle, ça reste Sherlock. Et c'est dommage. Bref, Benedict Cumberbatch donc, joue le Docteur Strange. Et le Docteur Strange a un parcours qui m'intéresse. Je vous passe les détails extrêmement... de background, vous voyez, de l'univers de Marvel, cela je vous laisse le découvrir. On va juste prendre le schéma un peu classique. Doctor Strange était un docteur, un vrai docteur, un chirurgien même, très très bon, fantastique pour tout dire, qui avait des doigts en or et qui savait faire des opérations extraordinaires, les meilleures du monde, et qui se challengeait en permanence. Il était obsédé par ça, le premier film de Doctor Strange parle de ça. Et j'ai beaucoup aimé cette genèse-là. Donc, suite à un accident de voiture, il s'en sort miraculeusement. Il a le dos en miettes, mais surtout, il a les mains broyées. Donc, en fait, les mains aujourd'hui, enfin, celles qu'il a juste après l'accident, sont incapables de précision. C'est des mouvements grossiers et rien de plus. Donc, pas de chance. Sa carrière s'arrête. Il est foutu. C'est l'horreur. Il a, au niveau de la chute du héros, vous savez, dans le parcours de storytelling, on est sur l'obstacle. On lui retire son rêve. Il avait tout. On lui enlève tout. On retrouve ça aussi dans L'Alchimiste de Paulo Coelho, si je me souviens bien, où on retire la récompense à la personne qui avait décidé de l'accepter parce qu'en fait, elle aurait dû la refuser. Bref, je vous laisse passer les détails. Mais en tout cas, Doctor Strange, donc, n'a pas fini son parcours. Il n'en est qu'au début. On lui retire ça. Il s'effondre et rencontre par la suite, je ne sais plus si c'est par hasard ou pas, en tout cas, il rencontre par la suite des gens avec des capacités assez exceptionnelles qui font de la magie. Et Doctor Strange, en fait, n'y croit pas, parce que c'est un cartésien, pure souche. Au fur et à mesure des rencontres et des échanges et des prises de conscience, il en vient à comprendre que la magie existe vraiment. Que la magie, en gros, ça se résume à une force vive, magique, donc une énergie, mais j'ai pas envie d'utiliser le terme d'énergie parce qu'il est trop galvaudé, mais une énergie magique qui est brute, qui peut faire exploser des choses, qui crée le vivant, qui crée la mort, etc. C'est, notre monde serait traversé de cette énergie magique. Il y a les sorciers qui existent, et je les nomme tout de suite, comme ça on s'en débarrasse, qui sont des gens qui naissent avec la capacité de manipuler cette magie, naturellement, elle est liée à eux. Donc ça, c'est les sorciers. Et on a les magiciens. Et les magiciens, ce sont pas seulement, comme dans Harry Potter, des gens nés d'une famille qui aurait le droit d'eux. Hein, c'est un peu trop élitiste, avec les moldus de l'autre côté. Et donc, le sang mêlé, les sangs de bourbe, etc. Tous ces trucs bien dégueulasses. Non, non. En fait, il s'agit de n'importe quel humain qui apprend à manipuler la magie. Donc il apprend à se saisir de cette énergie et à la manipuler de telle manière à obtenir un effet qui est celui qu'il veut. Donc, dans Harry Potter, on était sur l'idée de si tu récites ce sort, voilà, et que tu bouges ta baguette d'une certaine manière, eh ben il va se passer telle chose. Et donc, Wingardium Leviosa, ou je sais plus quoi, voilà, tous les trucs dont on se souvient du film, ou des livres, et il se passe quelque chose. Donc ça, c'est bien, mais Doctor Strange, c'est plus intéressant. Alors, Doctor Strange n'est pas une référence, hein, penchez-vous sur les religions chamaniques et les choses comme ça, si ça vous intéresse. Doctor Strange est une caricature de tout ça. Donc, Doctor Strange, on lui explique la magie et on lui dit à quel point elle est complexe. On lui dit, en gros, qu'il va devoir lire des centaines de livres, se pencher sur des milliers d'histoires, faire des centaines d'heures d'exercices pour pouvoir réussir à produire des choses complexes. Ce qui me passionne, et on le voit notamment dans le dernier Doctor Strange qui est sorti sur le Multiverse of Madness, qui est un très bon film de divertissement, je pourrais pas vous répéter l'histoire, mais en gros, il y a plusieurs multivers et ils se baladent au travers et c'est passionnant et c'est super beau graphiquement, régalez-vous. Et c'est le gars qui a fait les Spider-Man il y a longtemps qui a réalisé ça, Sam Raimi, donc très beau. Et dedans, en fait, on voit qu'à des moments donnés, Doctor Strange, il fait un rond avec la main et tac, ça ouvre une porte, un portail entre deux endroits. Bon, ça, on s'arrête et on se dit « Waouh, magie !» On se souvient aussi qu'il y a une vieille citation que je savais qui c'était. Ça m'échappe maintenant. C'est pas grave, qui dit que arriver à un certain niveau de maturité ou d'expertise, toute technologie ressemble à de la magie. Votre téléphone est magique. Si vous vous arrêtez une seconde dessus, que vous y réfléchissez, vous verrez qu'il est magique. Vous ne savez pas comment il fonctionne et pourtant vous l'utilisez tous les jours et il fait des choses incroyables et c'est devenu banal pour vous, mais c'est magique. Et donc la magie fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que pour le Docteur Strange, il ne s'agit aucunement de magie, ou alors en tant que art ou arcane et savoir-faire, et spécialisation, mais pas du tout en tant que « waouh, il a bougé la main, il s'est passé ça ». C'est « il a bougé la main, mais il s'est passé une trentaine de choses en plus, avant et après qu'il ait bougé la main, qui a créé ce que vous avez vu. Et lui a maîtrisé ces 30 choses. » Donc, quand vous êtes face à un magicien, je sais que ça n'arrive pas, merci de me le rappeler, quand vous êtes face à un magicien et qu'il vous fait un tour, alors même un illusionniste, on pourrait dire, ou un spécialiste d'une technologie quelconque, il vous fait un tour et vous trouvez que ça ressemble à de la magie. Or, c'est de la très haute technicité ou technologie. Mais c'est surtout une décomposition d'un mouvement qui a permis la génération de quelque chose. La décomposition d'un mouvement. Ok ? Bon, si je vous dis ça, c'est justement pour arriver au cœur de ma révélation. ChatGPT est nul. ChatGPT est nul. La plupart des intelligences artificielles sont nulles. Parce qu'elles sont de la magie. Alors mon déroulé est un peu hasardeux, et je peux comprendre que vous trouviez que je sois un peu trop infantilisant là-dedans, mais repartez de l'idée de ce qu'est la magie. C'est une énergie brute. La question n'est pas est-ce que la magie est fantastique, parce qu'elle ne l'est pas. La question c'est est-ce que le magicien est fantastique quand il sait utiliser la magie. Donc pour moi, c'est là mon principal argument quand on me demande pourquoi ma formation n'est pas une autre, ou alors quel est l'avenir du rédacteur web. C'est, il y a de la magie dans ChatGPT, il n'y a que ça, mais il faut des magiciens. Il faut quelqu'un pour décomposer le mouvement. C'est là-dessus que je veux rentrer un petit peu dans le sujet maintenant. Mais en gros, ChatGPT est un outil réservé, écoutez-moi bien, c'est important, réservé aux professionnels. Alors, dans notre domaine, il est réservé aux professionnels de la rédaction web. Mais il peut aussi être réservé aux programmeurs ou à toute autre personne qui trouve de l'intérêt à ça. Si vous voulez, par exemple, visiter une ville, vous pouvez demander à GPT-4, parce que le 3, il va être un peu fumeux, mais vous pouvez demander au 4 de vous faire un itinéraire. C'est très bien, mais vous ne savez pas faire un voyage. Vous ne savez pas faire un vrai voyage. Donc vous allez demander un itinéraire de débutant, un itinéraire de touriste, bas de gamme, et il va vous sortir un truc qui va ressembler à une carte postale. Et peut-être que vous ferez ce voyage en disant « C'est extraordinaire, ChatGPT était fabuleux, mais qu'est-ce qu'il y avait comme monde ?» Parce que vous êtes allé dans les plus hauts endroits touristiques, les endroits peut-être les moins intéressants de là où vous alliez. Donc, il y a un problème, ChatGPT ne vous a pas bien conseillé. Alors pourquoi est-ce que vous iriez dans une agence de voyage qui s'occuperait de faire votre itinéraire et votre programme plutôt que d'aller sur ChatGPT où vous pouvez taper « Fais-moi un programme » et puis il vous en fait un. Ben parce que si le gars de l'agence utilise ChatGPT, lui, il va vous sortir un programme extraordinaire. Est-ce qu'il saurait le faire lui-même ? Je suis en train de monter une côte, hein, vous inquiétez pas pour mon souffle, je vais bien. Est-ce qu'il saurait le faire lui-même sans ChatGPT ? Bien sûr, mais ça lui prendrait plus de temps. Mais il ferait quelque chose d'aussi bon sans hésiter, c'est sûr. ChatGPT va servir d'accélérateur. Avec tous les garde-fous que votre voyagiste va mettre en place. Parce qu'il sait les choses, il connaît la destination. Il sait que là, ChatGPT se trompe. Que là, on pourrait faire mieux. Alors il va dire à ChatGPT, attention, tu te trompes sur tel élément, il faut faire autrement. Ça, c'est fermé en ce moment. Tu ne le sais pas, mais je te donne l'information. Repense les choses. Et c'est en travaillant, en synergie, le voyagiste, avec ChatGPT, qui peut vous sortir un extraordinaire guide de voyage. Mais vraiment extraordinaire. Après, il dira à ChatGPT, maintenant qu'on a fait ce guide, s'il te plaît, écris-moi toutes les descriptions dont ils ont besoin. Il va relire et vérifier que tout est juste. Et il vous enverra un guide détaillé et personnalisé en fonction de vous et de votre manière de voyager. Et ça sera le meilleur voyage de votre vie. Voilà. Parce que ce voyagiste sait faire de la magie. Mais il ne sait pas utiliser ChatGPT. Du moins, peut-être juste basiquement, il sait lui parler. Mais c'est pas ça ce qui fait la magie. Ce qui fait la vraie magie, c'est que ce voyagiste sait ce qu'il veut en résultat. Et qu'il lâchera pas ChatGPT tant qu'il n'aura pas ça. Quand on fait ce genre de travail avec une intelligence artificielle, il y a des gens qui me demandent combien de temps ça me prend pour rédiger un article pour le Cercle des rédacteurs, par exemple, avec ChatGPT. Ça me prend entre une demi-heure et une heure. Alors ils me disent, mais c'est énorme. Pourquoi tu fais ça? T'as juste à taper le sujet. Ben oui, mais non. Parce qu'en fait, moi, il va y avoir une quinzaine d'échanges entre ChatGPT et moi. Pour réussir à déterminer, déjà moi, il faut que j'affine ce que je veux. Je viens pas forcément avec l'idée de savoir très exactement quel texte je veux avoir. Je viens avec une intuition, avec une source. Et ChatGPT et moi, on va réfléchir ensemble aux choses. Je vais lui poser des questions, je vais lui demander d'adapter le texte, je vais lui demander de retravailler le sujet, de trouver des nouvelles problématiques. On va réfléchir ensemble, comme si j'avais un assistant. Ça reste mon œuvre à la fin. Il y a des gens qui disent, mais c'est plus toi le maître, si jamais c'est ChatGPT qui fait le travail pour toi. Alors en petite parenthèse, il se peut, je dis bien il se peut, c'est une hypothèse, que la Joconde n'ait pas été peinte par Léonard de Vinci. Voilà. Parce que tout simplement, il avait un atelier avec une trentaine d'apprenants, avec lui, d'apprentis, dont certains très talentueux. Et quand il finissait, parce que c'est lui qui dictait les consignes de travail de toutes ces personnes, quand des œuvres sortaient de son atelier et qu'il les vendait, il les signait de son nom. Parce que c'était bien de lui qu'il s'agissait. Il a appris à ses apprentis à travailler d'une manière très précise, un style très précis, totalement reconnaissable. Signature, en quelque sorte. Mais celui qui a fait le geste sur la toile n'est peut-être pas Léonard de Vinci. Il y a des études en cours là-dessus. Mais est-ce que la toile va être dévaluée si c'est pas Léonard de Vinci? Est-ce qu'elle va perdre de son génie? Parce que c'est un autre que lui qui a exécuté le travail qu'il a dicté? Compliqué. Néanmoins, il y a une forme de signature dans le travail qu'on fait. Vous voyez? Je suis désolé pour mon souffle. J'imagine que ça doit pas être très agréable. J'arrive en haut de la côte. C'est bon. Je vais ralentir un petit peu, histoire de ne pas vous embêter avec ça. En tout cas, ce qui est important dans l'histoire, c'est que ChatGPT ne peut pas travailler à votre niveau sans vous. Il ne peut pas faire ça. Vous dites à ChatGPT, quelqu'un dit, je voudrais que tu... écrive un article de blog pour sur ce sujet-là, par exemple, telle chose ou telle autre, ben, à ce moment-là, ChatGPT va s'exécuter. Et si vous le faites, vous verrez, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de H1, il n'y a pas de problématique dans l'introduction, il n'y a pas de première partie contextualisante, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de source, il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Ce texte est nul. Limite, on n'est même pas sûr de ce qu'il raconte. Parce qu'il n'y a pas de source. Donc, il n'y a rien. Alors, ChatGPT est-il nul? Ben moi, quand je lui demande de faire quelque chose, il a un prompt qui fait quasiment une page entière. Dans laquelle je lui dis tout, comment je veux le titre, à quoi il doit ressembler, où doivent être placés les mots-clés, qu'est-ce qu'il y a dans l'intro, qu'est-ce qu'il y a dans la première partie, dans la seconde, pas les contenus, je ne demande pas le plan détaillé. Ou je ne lui donne pas le plan détaillé. Mais je lui dis philosophiquement. Ou Ah zut, j'ai contexte en tête, c'est pas ça. Les caractéristiques même du texte. Concept, voilà, je cherchais le mot concept. Le concept même du texte, je lui donne, je lui explique la recette. Mais je lui dis surtout à quoi sert le texte. Quel va être son rôle, son but? Comment il rentre dans la stratégie de communication du client? À qui il s'adresse vraiment? Quel est le problème de la personne qui vient lire? Quel est son statut? Comment est-ce qu'on parle avec cette personne-là? Quand je lui expliquais tout ça, comme je le ferais avec un apprenti qui ne connaît pas mon métier, ce que j'obtiens est un excellent texte. J'avoue, je repasse, je relis, je prends des petits bouts de génération d'avant que je complète, je bricole quelque chose, je change éventuellement un titre ou deux, je l'embête pas, je vais pas le relancer encore une fois et encore une fois et encore une fois pour des petits détails que je peux régler moi-même. Je fais ces détails-là moi-même, tout va bien. Par contre, le très gros œuvre, c'est lui. Alors là, on touche à quelque chose et je vais vous mettre en garde tout de suite. Moi, sur mon site, je prends le risque de publier des textes générés par ChatGPT parce que je fais l'hypothèse que mes prompts l'obligent tellement à être dans une qualité supérieure d'écriture que Google ne considérera pas forcément ça comme négatif. Mais ce n'est qu'une hypothèse de travail aujourd'hui et je ne la recommande à personne. Écrivez vos textes vous-même. Faites faire tout le reste à ChatGPT, il y a beaucoup beaucoup à faire, mais le texte à la fin, signez-le vous-même, vos clients vous diront merci et ils reviendront vers vous parce qu'ils gagnent sur tous les tableaux. Le texte est mieux fait, mieux paramétré, mieux documenté, mieux enrichi, mieux travaillé et écrit par un humain. Parfait. Ok ? Néanmoins, donc, moi je peux générer comme ça un texte en une demi-heure, une heure, à partir d'un ou deux articles que j'ai lus qui m'ont intéressé. Vraiment, je commence à avoir des process qui sont intéressants et qui permettent de générer des choses plutôt bien. Dans mes derniers prompts, il me fait carrément des recommandations pour l'image à la une aussi, et pour les images intermédiaires. Il me dit, ça serait bien de mettre une image qui reflète ça, etc. Alors c'est un peu classique, mais à moi de lui dire, pour les images, voilà ce que j'imagine, et voilà la ligne éditoriale qui est la nôtre. Alors vous commencez à comprendre le fond de mon raisonnement. Vous commencez à comprendre que ChatGPT n'est bon que si celui qui lui écrit le prompt est bon. Là, on arrive dans la deuxième partie de mon raisonnement sur lequel je mets les rédacteurs en garde. Quand je discute, là j'ai fait une formation, le spirit du rédacteur, et dedans, à un moment donné, je montre un prompt, qui est un prompt qui corrige les textes. C'est-à-dire vous écrivez un texte, et puis vous y êtes allé un peu vite, c'est un peu maladroit, il y a des phrases qui sont pas super bien tournées français, mais globalement le texte est bon, en gros c'est du 12 sur 20, 13 sur 20 en termes de qualité d'écriture, ben, vous le passez dans ChatGPT avec un prompt que j'ai conçu, et vous avez le même texte qui ressort, sauf que toutes les petites erreurs stylistiques, les petits machins, les tournures de phrases, les endroits un peu lourds, les trucs, ben, tout ça a été réajusté. Et a été réécrit correctement. Donc en gros, il change, le prompt change peut-être 15% du texte, mais juste il affine tout le style. Et ce qui fait que le texte devient très agréable à lire. Et donc, c'est vraiment, on enlève toutes les aspérités en quelque sorte. Je vais m'asseoir un petit peu. Ah, Lily, petite pause. Allez, va jouer. Ah, voilà, je suis en pleine forêt. Dans un endroit que je connais pas encore très bien. Mais c'est bien joli tout ça. Ah, on est en Allemagne, je précise. Et donc voilà, en fait, ce prompt, qui est, ça, c'est de la magie, en quelque sorte, parce que vous prenez des textes qui ont été écrits par des gens n'importe où dans le monde, qui ont des particularités de langage issues de la version du français qu'ils utilisent dans leur pays, qui est la leur, et qui est toujours le français, mais le français a plein de frères et sœurs dans le monde, ben vous pouvez réaffiner totalement le texte en un seul clic sur le français de France métropolitaine. Et donc gommer en une seconde toutes les petites aspérités qui pouvaient être éventuellement un peu dérangeantes. Donc moi, j'enseigne ça tout de suite à toutes les personnes qui peuvent s'en servir. Ça fera partie des cours qu'on va rajouter. On va expliquer ces choses-là. On va montrer que ChatGPT peut servir à ça parce que c'est un atout, un game changer phénoménal, ce truc-là. C'est vraiment dingue. Donc voilà. Et pendant le cours, bah, mes élèves, qui étaient mes élèves à ce moment-là, en fait, m'ont demandé une copie du prompt, s'ils pouvaient le piquer. Moi, je voulais leur montrer en disant, tenez, regardez, voilà comment j'ai écrit mon prompt. Et ils me l'ont piqué. Et ils l'ont stocké. Ils ont dit, ouais, super, on a... C'est comme si, en fait, et c'est drôle, parce que c'est comme si on était sur la chasse aux Pokémon, vous voyez. C'est vraiment, un Corijou. Corijou va évoluer en réécrivard. Mais... vous avez un Corijou, vous l'attrapez, et puis ça y est, vous avez le pouvoir du Corijou. C'est bien, et tout le monde fait la chasse aux recettes, et si vous voulez en ce moment faire des get content pour attirer des publics qui travaillent là-dessus, ben allez-y, faites des propositions de prompt. Des machins qui marchent bien, et surtout qui marchent bien avec GPT-3, ça c'est la partie vraiment sportive. Parce que GPT-4 fonctionne vraiment très très bien et GPT-3 c'est plus compliqué, on va dire. Il faut vraiment recinturer, relancer plusieurs fois, etc. C'est compliqué. Le 4, il peut taper dans le 1000 assez régulièrement du premier coup. Voilà. Et je rappelle que le 5 n'arrivera sans doute pas, ou peut-être pas avant plusieurs mois ou années, plutôt des années. Parce qu'ils ont un problème, c'est qu'il y a GPT-4 a étudié 90% du web, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. C'est une base de données absolument phénoménale qui a servi à faire le travail de GPT-4 et à concevoir son cerveau, en quelque sorte, son modèle de langage. Et ils n'ont pas assez de stock pour le 5. D'ailleurs, ça me fait penser à une blague que j'ai trouvée très drôle et qui est peut-être pas si bête que ça. C'est que le ChatGPT, en fait, a une base de données qui s'arrête en 2021. 2021, ChatGPT il n'a pas les informations au-delà. En fait, il n'a pas retravaillé. On peut faire ce qu'on appelle du fine-tuning en lui redonnant plus de contexte, plus de matière pour qu'il retravaille les choses. Mais bon, là, en l'occurrence, il évolue pas ou peu et il reste sur 2021. Et il y a quelqu'un qui faisait l'hypothèse, je crois que c'était dans Underscore, l'émission que vous pouvez trouver sur YouTube et qui est une extraordinaire émission de tech, notamment de vulgarisation de tech, vraiment très haut niveau et super intéressante, passionnante même. Il y a quelqu'un qui disait, ben oui, c'est 2022 en l'occurrence, c'est l'arrivée des vrais premiers modèles de langage utilisables et exploitables correctement. C'est-à-dire qu'il y avait bien Jasper, etc. qui traînait, mais c'était pas ouf, et puis ça prenait pas beaucoup de marché. Là, on est arrivé sur les grands modèles vraiment très génératifs. Et il dit, bah voilà, peut-être que les ingénieurs ont fait l'hypothèse que le web serait pourri après, par leur propre outil, et donc ils ont arrêté le modèle de langage avant. Pour éviter que le modèle de langage s'inspire de mauvais textes générés par le modèle de langage. Donc c'est une plutôt bonne hypothèse, en fait. C'est plutôt intéressant comme manière de penser les choses. Mais je ne sais pas si c'est ça. J'en ai aucune idée. En tout cas, donc ces modèles de langage sont très entraînés. Et aujourd'hui, ils savent faire des choses qui sont extraordinaires. Voire même, pour ouvrir une petite parenthèse là-dessus... La chose qui me fascine le plus avec ChatGPT, de très très loin quand même, hein, c'est le fait que on ne sait pas ce qu'il sait faire. Il y a en fait, quand vous augmentez la puissance de ChatGPT, donc puissance de calcul, base de données, je veux dire, on parle, vous savez, il y a des modèles à 300 milliards de paramètres, à 500 milliards de paramètres, c'est quasiment le nombre de neurones en quelque sorte, qui sont interconnectés. On a entendu à un moment donné une rumeur, parce qu'on n'a pas l'information, disant que ChatGPT, GPT-4 en l'occurrence, avait 1000 milliards de paramètres. 1000 milliards, qui détenait le record du monde, tout simplement. Donc, face à ça, on a découvert que plus on augmentait la puissance de calcul, plus on augmentait le LLM, le Large Model, Large Language Model, le modèle de langage, plus en fait... il y avait des nouvelles compétences qui émergeaient. Par exemple, GPT-3, quand ils ont commencé à l'accélérer, ils se sont rendus compte que si on lui donnait un modèle, si on lui disait, voilà, tu commences par une phrase à propos des fruits, une phrase, après tu suis d'une phrase à propos des légumes, et après tu finis une phrase à propos du repas, Eh ben, on lui dit, fais ça 50 fois avec des variations, et il sait le faire, il respecte le modèle de base. Mais ça, personne ne lui a jamais appris. Personne, d'ailleurs, n'a jamais rien appris au LLM. C'est lui qui sait interpréter les choses, en quelque sorte. C'est un peu plus compliqué, je vous laisse regarder un petit peu comment ça marche. Mais voilà, et donc, en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en train de chercher des vraies nouvelles fonctionnalités de GPT-4 pour voir jusqu'où on peut aller, etc. Donc c'est, je trouve ça fascinant parce que des fois je lui fais faire un truc et je me dis waouh, c'est dingue qu'il sache faire ça, c'est quand même extraordinaire, c'est un travail très pointu que moi je sais faire, mais vraiment pointu, et il arrive à le faire si je lui explique comme il faut. Souvenez-vous de la magie. La magie est une énergie brute et il y a un magicien qui arrive en séquençant les choses à lui faire faire quelque chose. Donc un sort chez un magicien, c'est un ensemble d'étapes. Mettez-vous face à la lune, sortez votre baguette, faites 3 tours d'aile sur autour de vous, dites Wingardium Leviosa ou j'en sais rien, et puis pointez dans la direction de là où vous voulez lancer le sort. Bon, ça c'est une recette. Ce que ça ne dit pas, la recette, c'est pourquoi face à la lune, qu'est-ce que la lune a à voir là-dedans? Le magicien le sait. Moi je ne le sais pas, mais le magicien le sait. Les mots latins, le magicien sait pourquoi on parle latin. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de la force. Alors, on est dans du fantastique, hein. On n'est pas du tout dans le réel. Mais il y a de la force dans l'utilisation du latin pour pouvoir lancer un sort. Ou du tibétain, en l'occurrence, pour Dr. Strange, etc. Parce que la magie existe dans toutes les cultures. Donc, on a ça. Et après, pourquoi est-ce que ma baguette, je dois faire 3 tours sur elle-même? Ben peut-être parce que la baguette est d'une essence de bois particulière qui est enchantée pour une raison ou une autre, parce qu'elle a poussé près d'une source de magie ou j'en sais rien, etc. Il y a d'ailleurs pas mal de mondes fantastiques qui détaillent des endroits où il y a de la magie et des endroits où il n'y en a pas, ce qui fait que les magiciens n'ont pas de pouvoir dans les endroits où il n'y a pas de magie. Donc c'est vraiment cette idée de manipulation de l'énergie qui revient, etc. Donc ChatGPT, si vous voulez faire un bon texte, si vous voulez faire un texte avec lui, en gros vous lui dites... comme votre client ferait, hein. Je vends des chaussures, j'ai besoin de textes qui parlent de mes nouvelles chaussures, de tel modèle qu'on a vu dans tel film, écris-moi un article là-dessus. Bon, il sort quelque chose, et cette chose parle en effet de ça. C'est-à-dire, dans le film Le Napolitain, on voit tel acteur porter ces chaussures-là, elles sont magnifiques, elles sont faites de telle et telle manière. Bon, déjà, le client se dit, bah ouais, mais bon... Le Napolitain, d'accord, sauf que c'était pas le bon acteur, mais ça c'est pas grave. Il a donné une citation du film, mais c'est pas la bonne. Bon, bah tant pis. Et puis, après, voilà, que finalement il a décrit les chaussures, c'est pas les bonnes matières, c'est pas le bon truc, il faut que je reprenne tout ça, mais en gros, j'ai quand même une trame qui m'a bien avancé, je vais pouvoir continuer l'écriture. Le texte qui sort à la fin n'est pas optimisé, n'est pas travaillé, n'est pas positionné. Bref, c'est un article du genre qu'on lit et où on repart juste après. Donc pour le taux de rebond, ça arrange rien. Voilà. Mais maintenant, vous donnez ça à un magicien rédacteur web qui va dire « Ok, j'ai un nouveau produit qui vient de rentrer dans la boutique de mon client, qui est une paire de chaussures qu'on voit dans un film qui s'appelle Le Napolitain, porté par Alain Delon. Je crois que ce film n'existe pas. Et donc, ben, il faut que je puisse... faire quelque chose à partir de là. Donc, je vais commencer par réfléchir à qui... Oups, j'ai des bestioles qui me grimpent dessus et qui me piquent. À qui ça peut intéresser ce truc-là. Et donc, ils vont creuser et... Enfin, il va demander à ChatGPT d'analyser les choses. Il va donner des éléments constitutifs de la marque, les valeurs, etc. pour réussir à savoir ce qui... à qui ce site internet plaît en général. Qui vient lire, qui devrait venir lire. Qui est en fait ce qu'on appelle le lead qualifié, c'est-à-dire le prospect qualifié, celui qui pourrait venir pour des bonnes raisons. Parce qu'il est fan de chaussures et il adore les chaussures dans les films. Donc, bah, c'est le gars qu'on veut. Okay, c'est le seul qui est capable de mettre 200 balles dans une paire de chaussures pas plus confortable que les autres, mais qu'on a vu dans les films. C'est comme tous ceux qui achètent la DeLorean, alors que c'est probablement une des pires voitures du monde, mais on l'a vu dans Retour vers le futur, alors il y a des collectionneurs qui la prennent, mais tous les collectionneurs vous le diront, c'est la pire voiture du monde. Bref, Donc, on a ces collectionneurs-là et on veut réussir à les atteindre. Donc, comment on parle à des collectionneurs? Alors, on demande à ChatGPT de nous faire le portrait d'un collectionneur. ChatGPT est imprécis. Donc, on va sentir que ce que ChatGPT donne n'est pas suffisant. Donc, on va aller chercher de la matière. On va aller voir des journaux, par exemple, spécialisés dans la collection de chaussures. Et on va copier des articles, un petit peu de fond, des réflexions, des choses, un peu de l'essence, de ce qui fait la valeur de cette collection. On va le donner à ChatGPT, on va le nourrir de ça, et on va lui dire, maintenant que tu as tous ces éléments, comme moi je les ai eus en les lisant, reprends ton profil de persona. Il nous refait quelque chose, on se dit, ah là déjà ça ressemble un petit peu plus, c'est plus fin, c'est plus travaillé, ça match davantage. Par rapport à ce que moi je sais, parce que je suis en train de suivre le truc de l'autre côté. En gros, je délègue à ChatGPT les calculs. Mais je vois la direction et je sais reconnaître la bonne réponse. Donc, je demande après à ChatGPT quels sont les pain points de ces gens, c'est-à-dire qu'est-ce qui les frustre le plus. ChatGPT me dit très probablement le fait de ne pas avoir assez d'informations sur les films et sur les origines des chaussures qu'ils collectionnent. Donc, je me dis, tiens, ça c'est intéressant. Donc, je commence à faire une petite recherche sur la paire de chaussures qu'on a vue dans le Napolitain, qui a été reproduite chez mon client. Je tombe sur des articles qui datent des années 50-60 et qui parlent de comment ça s'appelle, des coulisses de ce film, en quelque sorte, du making-of du film. Et je tombe sur un article concernant les choix des chaussures. Donc, je récupère cet article-là. Et j'en récupère la source et la signature aussi. Et je dis à ChatGPT, ceci est une source qui explique justement ce que sont l'origine de ces chaussures. Après, je vais chercher un article aussi qui va résumer le film de Napolitain. Je vais le donner aussi à ChatGPT. Je vais dire, voilà, maintenant, moi, ce que je vois, alors soit je lui dis, dis-moi ce que toi, tu imagines à partir de là pour vraiment bien répondre à la cible. Il me fait un plan. Donc, je regarde le plan, s'il me convient ou pas, et je le réajuste. Ou alors, j'ai mon intuition et je lui dis, voilà, moi, je pense que la première partie, tu pourrais parler du film Le Napolitain et donc donner tous les éléments que je t'ai donnés, etc., et faire dans un ton intéressant, vraiment contextuel. Et après, tu vas parler des chaussures et de l'origine de ces chaussures. Et puis, on finit par un call to action vers la fiche produit de ces chaussures. Et il me dit, tiens, c'est une bonne idée. Il commence à me faire le truc, pourquoi pas. Et puis je me dis, ah, mais il me faudrait des sources, l'INA, je sais pas quoi. Donc je fais mes recherches à côté, je trouve des choses complémentaires, des interviews, des réalisateurs, des choses comme ça. Je commence à faire un petit peu de liens, de vidéos qui viennent de YouTube ou d'ailleurs, histoire de nourrir un peu ça. Et puis à un moment, je lui dis à ChatGPT, on pourrait prendre une photo de ces chaussures et puis les faire passer dans Midjourney pour faire ressortir une très très belle image de ces chaussures, mettant vraiment très très en valeur ces chaussures. Et je dis à ChatGPT, écris-moi le prompt pour ça, voilà tel comment je vois l'image, blablabla, et maintenant écris-moi le prompt en anglais, enfin bref, il y a des prompts pour écrire des prompts sur Midjourney. Et donc je lui donne ça, il génère ça, je vais aller sur Midjourney, je vais générer l'image que je voulais, et j'ai mon image à la une, mon titre qui claque, mon article qui est hyper intéressant, avec des sources disponibles, des vidéos et des choses comme ça. Et en fait, je régale littéralement le collectionneur de chaussures qui s'intéressait à cette paire de chaussures-là. Donc, en termes de conversion, à la fin, une fois que les gens ont lu le texte, ils sont convertis dans le sens où ils ont compris la valeur de ces chaussures en termes d'objets de collection. Alors ça vous arrive peut-être rarement, mais parfois, vous pouvez faire le marché aux puces et découvrir, un jeu de société auquel vous jouez quand vous étiez gamin et dire « Ah, je l'achète !» alors que vous ne rejouerez jamais. Mais juste, le posséder, c'est posséder un morceau de votre histoire, c'est posséder quelque chose d'intemporel qui a de la valeur pour vous. Donc, si j'explique par exemple que aux gens qui ont adoré le film Le Napolitain, qu'en fait, ils peuvent posséder un élément de collection. Moi, j'ai eu une boutique il y a longtemps de jeux de société et on vendait aussi des figurines cinéma. Et j'ai comme ça offert une DeLorean à mon frère et puis la voiture de Ghostbusters, la Ecto 1 et celle de Cours après moi, shérif. Et en fait, il a acheté une vitrine chez Ikea en verre, une petite colonne comme ça, et puis il les a mis dedans avec des éclairages et il adore. Alors que c'est pas du tout un collectionneur. Mais il adore, il a aussi une figurine de Cobra, il a aussi deux, trois choses comme ça. Mais c'est des éléments de notre enfance. Au cas où vous trouvez que c'est trop infantilisant, j'aimerais vous rappeler le nombre de grands-mères qui collectionne les poupées de porcelaine avec lesquelles elle jouait quand elles étaient enfants. Ok ? C'est naturel de collectionner les choses de notre enfance. C'est naturel, depuis toujours. Voilà, bref. Mais en tout cas, je voulais vous montrer en gros comment ça se passerait si on devait travailler un texte avec ChatGPT. Ce texte-là, quand on le livre au client, on a passé autant de temps que si on l'avait écrit nous-mêmes, mais avouez que la qualité est incroyablement supérieure par rapport à ce que vous auriez fait peut-être spontanément. Vous pourriez me dire « Ah, mais intuitivement, j'aurais parlé du film et des chaussures ». Oui, mais en même temps, moi, je vous parle pas d'intuition, je vous parle de science, de recherche, je vous parle de certitude, je vous parle de garantie, je vous parle de choses comme ça. Je veux dire, c'est un outil professionnel qui vous amène à un niveau professionnel. On arrête avec le « Ah, mais moi, j'ai de l'intuition, moi, je suis un bon rédacteur parce que j'ai du talent ». Arrêtez, arrêtez, ayez de la méthode, pas du talent. D'accord ? Les sorciers ont de la magie naturellement, les magiciens manipulent une magie sans être eux-mêmes porteurs de magie, mais ils manipulent la magie. Et ils obtiennent des choses qui sont... Ben, je ne sais pas lequel des deux est le meilleur, hein, vous d'établir ça. Mais en tout cas, si vous pensez que vous êtes sorcier et que le marketing coule dans vos veines et que vous avez des intuitions fulgurantes, ben, engagez-vous auprès de vos clients à du résultat. Allez-y. Je ne pense pas que vous le ferez. Mais de l'autre côté, avec ChatGPT, vous pouvez produire un document... À la fin, une fois que vous avez fini tout votre travail, vous pouvez dire à ChatGPT, lui donner un autre prompt qui s'appellera document de rendu, qui dira, en gros, qui produira quelque chose en copier-coller, qui produira quelque chose que vous pourrez copier-coller dans un document Word que vous joindrez à votre livraison, qui expliquera tous les enjeux du texte que vous venez de livrer. Voilà, et ça, c'est classe. Le client, il est face à ça, il lit votre article, il se dit « Ah, c'est bon !» Il lit le deuxième article qui dit « Voilà pourquoi cet article va vous rapporter de l'argent, je vais vous expliquer toutes les mécaniques qui sont en jeu dans cet article. » Et là, il se dit « Waouh, ça c'est bon !» Et ça, c'est ChatGPT qui peut le faire. Je veux dire, vous passez en ligue pro. D'accord ? Mais, encore une fois, le cœur de tout ce discours, c'est ChatGPT ne peut rien faire sans vous. C'est un outil professionnel et il a besoin d'un professionnel. Êtes-vous, vous, suffisamment professionnel ? Les gens que je forme, ils passent les trois quarts de leur formation, depuis 4-5 ans que je forme les gens, à dire « Waouh ! Mais c'est vrai, j'y avais jamais pensé !» Et c'est ça, l'enseignement que je donne. Hier, dans les entretiens, il y a quelqu'un qui m'a dit « C'est quoi la différence entre toi et les autres ?» Et moi, je lui ai répondu « Savoir comment on écrit pour Internet, c'est pas compliqué. Il y a des bouquins qui font ça très bien et des formations à 10 balles sur Udemy qui font ça très bien. Savoir pourquoi on doit écrire telle ou telle chose sur Internet, ça, il y a quasiment rien qui le donne. Il faut faire des formations de marketing pour ça. Marketing, communication, etc. Le SEO, il y a des gens qui considèrent que c'est une science en soi, mais le SEO est un outil de la communication. C'est un canal de conversion, un canal d'acquisition, et ça se travaille parce que ça amène du trafic passif, et c'est super intéressant, et c'est vraiment le plus rentable. D'accord ? C'est vraiment extrêmement rentable, le SEO. Mais, on doit se poser la question de ce qui fait le sens du texte, de ce qui fait le sens de la démarche, de ce qui fait le sens de la stratégie du client. Et ça, c'est ça ce que j'enseigne particulièrement. Et je dis à mes élèves, maintenant que vous avez le bon logiciel, c'est maintenant que vous allez rentrer dans la pratique, dans la technique, dans l'apprentissage, parce que vous avez une lecture des choses qui vous permettent de savoir si vous êtes dans les clous ou pas, et si vous allez dans la bonne direction ou pas. ChatGPT, entre mes mains à moi, est meilleur que vous. je provoque, je vous connais pas, si ça se trouve vous faites des choses très bien, et puis ça se trouve moi je fais des choses pas terribles, j'en sais rien, mais c'est juste une manière de vous provoquer pour que vous rentriez bien ça dans votre tête. Quand vous serez la prochaine fois face à ChatGPT, n'oubliez pas d'être extrêmement exigeant, et de l'amener lui à devenir meilleur, avec vous dans l'échange, parce que lui de base il est nul, comme n'importe quel stagiaire, mais dès que vous prenez le temps de former le stagiaire, il devient excellent. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est ça. ChatGPT, entre mes mains, est réellement excellent. Je l'utilise toujours aujourd'hui pour 95% des écrits que je fais. petite pensée amusante auprès de la personne qui m'a écrit il n'y a pas longtemps sous un de mes posts qu'elle détestait ChatGPT sur LinkedIn. Elle détestait ChatGPT, elle réagissait au post que j'avais fait qui vantait une qualité de ChatGPT. Elle détestait ChatGPT, elle ne pouvait pas le lire, ça lui donnait l'urticaire, elle ne le supportait pas et que vraiment elle le repérait à 100 km et elle trouvait ça détestable. Il se trouve que c'est ChatGPT qui avait écrit le post auquel elle réagissait. Et comme ChatGPT écrit tous mes posts, parce que ça fluidifie énormément. Et surtout, bah, c'est plutôt meilleur que ce que je fais moi d'habitude, parce que ça va beaucoup plus loin dans ce que je veux dire. Ça reste moi, c'est complètement signature, et il n'amène aucune idée nouvelle. C'est moi qui le cadre entièrement. Mais par contre, j'adore le fait que lui, il n'a pas peur de rentrer dans l'art et de provoquer des scandales. J'adore ça. Donc voilà. Mais je peux très bien dire, tu es timide et tu as peur de provoquer des scandales, et il arrêtera de le faire. Voilà, en tout cas, je trouve que plus ça avance, plus on est des metteurs en scène à devoir articuler ChatGPT pour lui permettre de faire des choses complexes et faire véhiculer des émotions humaines. Et ça, moi, ça me passionne. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. J'espère que ça vous aura aidé à prendre un peu conscience de ce qu'est ChatGPT et de ce qu'il n'est pas. D'accord ? Entre d'autres mains que les vôtres, ChatGPT est nul et ne peut absolument pas être une concurrence pour vous si vous, vous êtes à un niveau d'expertise de la rédaction web et de la communication qui est avancé. Si vous savez ce qu'il faut mettre sur une home ou dans une page à propos ou dans une fiche produit, un guide, une fiche service ou j'en sais rien, eh ben, vous pouvez écrire avec ChatGPT quasiment l'intégralité d'un site internet de très haute qualité. Si vous ne savez pas ce qu'il y a sur ces pages-là précisément comme une science, c'est-à-dire tous les tenants et aboutissants de chacun des contenus, alors ChatGPT ne sera que médiocre entre vos mains parce que vous n'aurez pas la capacité de détecter qu'il se trompe. Et lui ne sait pas s'il se trompe ou pas parce qu'il a besoin d'être vraiment drivé sur le contexte et d'avoir des consignes très claires à suivre. Des consignes d'experts. Donc voilà, formez-vous, lisez des livres, regardez des vidéos, cultivez-vous, arrêtez la chasse aux recettes, parce que c'était ça le discours, c'est bien d'avoir une recette, mais vous ne savez pas pourquoi la lune, pourquoi les baguettes, pourquoi les paroles en latin. Donc devenez magicien, véritable magicien, montez votre niveau pour pouvoir réussir à utiliser ChatGPT. Dans mon usage à moi quotidien, il est dingue. Mais il est dinguissime. Mais il est dinguissime parce que je l'amène à être dingue. C'est ça ce qui m'intéresse. Si je suis capable de former des gens, je suis capable de former ChatGPT. Et c'est ça ce que je vais transmettre maintenant à mes élèves. Je vais leur apprendre à devenir magicien. Au début, ils seront petits magiciens. Et puis à force d'entraînement, de réflexion, de travail, d'approfondissement, ils vont devenir des meilleurs magiciens. Au début, ils vont prendre des recettes et les appliquer, mais je vais leur enseigner ce qu'est une recette et je vais surtout leur enseigner ce qu'il y a derrière dans le champ de la communication qui justifie cette recette et pas une autre. Et ainsi, ils deviendront des magiciens. Devenez des magiciens de ChatGPT. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne fin de semaine d'ici là. Ciao, ciao.